Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, Joe. Oh la vache, c'est quoi ce délire?
Avec le renouveau du mouvement féministe ces dernières années, de plus en plus d'hommes semblent se poser des questions sur eux-mêmes, leur place, leur identité. Et j'imagine que si vous écoutez ce podcast, c'est votre cas, chers auditeurs. Si bien sûr c'est plein de bonnes intentions, hélas, cet intérêt occasionne parfois de très mauvaises surprises pour les principales concernées. En vrac, personnellement, j'ai vu par exemple des types qui te font des grandes leçons sur le travail domestique pendant que toi, t'es en train de repasser leur chemise, des patrons qui se mettent en colère dès que tu pointes leur comportement problématique, alors qu'ils pensent être de grands féministes, des super potes qui se servent de leurs connaissances pour briser des cœurs à la chaîne ou même commettre des violences, sans compter bien sûr tous ces mecs qu'on a vus ces dernières années écrire des bouquins à succès sur le sujet, en pillant les travaux des chercheuses sans les citer. Bref, c'est toujours délicat de rejoindre une lutte dans laquelle on occupe de fait une position de domination. Au passage, les mêmes questions se posent quand on est blanche et qu'on veut contribuer à la lutte antiraciste, par exemple. Pour l'anecdote, on m'a quelquefois envoyé des captures écran de profils de types qui, pour séduire sur les apps de rencontre, posaient avec le livre « Sorcière » de Mona Chollet, présente de Lorraine Bastide, ou même « Le cœur sur la table » de votre serviteuse, ce à quoi je réponds toujours « Fuyez ! Red flag !» Un peu pour rire, un peu sérieusement, parce que je sais bien qu'il peut y avoir un gouffre entre l'affichage et la réalité. Alors, est-ce qu'un homme peut être féministe ? Et si oui, comment ? Qu'est-ce que ça veut dire être vraiment utile à la cause ? Comment ne pas opprimer les femmes autour de soi ? Quelles sont les attitudes contre-productives et les erreurs les plus grossières ? Ou au contraire, les actions les plus profitables pour tous ? Les couilles sur la table, épisode 88. Il se trouve que cette question de la juste place des hommes dans le mouvement féministe est débattue depuis le début des mouvements féministes, même au XVIIIe siècle. Heureusement, l'un des spécialistes du sujet, Francis Dupuy-Déry, a lu toute cette littérature et en a fait une synthèse remarquable et drôle dans un petit livre violet intitulé « Les hommes et le féminisme, faux amis, poseurs ou alliés ?» pour une interrogation. Ce professeur de sciences politiques à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, s'intéresse à l'anarchisme, sur lequel il a publié plusieurs ouvrages, mais aussi à la mouvance antiféministe et masculiniste. Alors, le masculinisme, donc c'est pas l'équivalent du féminisme. En fait, le masculinisme, c'est ceux qui pensent que les hommes sont menacés en tant qu'hommes et doivent défendre leurs droits, y compris en commettant des meurtres et des attentats. Alors j'ai commencé par demander à Francis Dupuy-Déry ce que ça lui inspirait personnellement, après avoir tant lu et étudié cette question, ce sujet des alliés pro-féministes.
Moi, je suis de nature plutôt pessimiste et cynique. Ça m'inspire une sorte de crainte, méfiance, doute, cynisme, ironie. Je pense que dans le petit livre, ça transparaît un peu. Et avec la recherche que j'ai faite spécifiquement pour le petit livre, j'ai remarqué en fait qu'il y a beaucoup présentement d'hommes célèbres, disons ça comme ça, qui se disent féministes. Au premier plan, mon premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Il y avait Barack Obama, Biden...
Emmanuel Macron, il dit que c'est quand même notre président de la République en France. Il dit que la lutte contre l'inégalité des hommes et des femmes, c'est la grande cause du quinquennat.
Exactement.
Pour la deuxième fois consécutive.
Voilà, donc d'où deux quinquennats, parce que c'est tellement une grande cause. Et comme il n'a pas réussi à régler le truc la première fois, il se donne un autre quinquennat. J'ai remarqué aussi que les plus grandes firmes capitalistes, y compris en France, se donnent un vernis, dont L'Oréal, par exemple, un vernis féministe, qui vont faire des fins de semaine, des week-ends de formation pour leur cadre supérieur sur l'égalité de genre. que les plus grandes fortunes du monde, Bill Gates, vont financer des projets humanitaires qui touchent principalement les femmes, bref.
Donc, c'est bien tout ça.
Oui, oui, sauf que par exemple, pour justement ces grandes compagnies, ce qu'on réalise, c'est qu'elles ont beau faire des formations et payer des formateurs pour venir former leur cadre supérieur, 90% ou 95% des grandes compagnies sont encore dirigées par des hommes et les conseils d'administration sont majoritairement masculins. Les personnes les plus riches du monde, c'est encore des hommes, en France, aux États-Unis, au Canada et ailleurs. Et donc, on a beau se réclamer du féminisme et se prétendre féministe et se prétendre pour l'égalité des sexes, ça ne veut pas dire que dans nos propres organisations, dans nos propres pratiques, on l'est réellement.
Ça, c'est une approche que vous avez qui est très matérialiste.
Oui.
Et ça vous caractérise. Matérialiste, ça veut dire, c'est pas que vous êtes spécialement attaché aux objets ou que vous aimez les beaux vêtements. Enfin, vous êtes bien habillé, mais
merci,
c'est pas spécialement le truc. Non, ça veut dire que vous insistez là-dessus. À chaque fois, il faut revenir aux faits, aux statistiques. Qui a l'argent? Qui a le pouvoir? Qui est à la tête des organisations? Ou qui fait le travail, par exemple,
oui.
Qui fait le travail domestique,
oui.
Qui fait le travail émotionnel, et c'est ça qui est important de mesurer,
oui.
Combien il y a de personnes au pouvoir, enfin bref, avec une approche factuelle en fait. C'est pas qu'une question d'évolution de la culture, c'est est-ce que cette évolution de la culture, où on a l'impression que quand même on parle énormément de féminisme, qu'il y a eu le film Barbie à l'écran, qu'il y a de plus en plus de garçons, je sais pas moi, qui vont mettre du vernis à ongles, mm-hmm. Vont se questionner sur les normes de genre et tout, est-ce que ça a des conséquences concrète sur l'argent et le partage du pouvoir.
Voilà, tout à fait, vous m'avez démasqué. Donc on peut arrêter ici, je pense.
Non, mais vous êtes vraiment matérialiste. C'est important
de
le dire.
Oui, mais matérialiste, donc vous faites référence évidemment au féminisme matérialiste, mais c'est aussi lié à ma formation et je dis souvent, mi-sérieux, mi-blagueur, je dis souvent, moi je suis un politologue, je suis formé en sciences politiques. Donc, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas sexologue, je ne suis pas spécialiste de la culture, je suis en sciences politiques. Et en sciences politiques, on n'est pas très original. Quand on veut regarder qui a le pouvoir et qui domine dans une société, on regarde qui a l'argent, qui est en haut dans les postes de décision, en haut de la pyramide, qui a peur de qui tue qui a les armes, qui contrôle les institutions les plus puissantes. Et donc, quand on parle de l'égalité entre les sexes ou entre les hommes et les femmes, ben, en fait, on est bien obligé, si c'est ça qu'on regarde, de constater que aujourd'hui, même si on voit des hommes qui poussent des poussettes au jardin du Luxembourg à Paris, mais en fait, ils sont aussi majoritaires un peu partout, sans poussettes d'ailleurs, dans les lieux de pouvoir. Et quand on regarde des sondages, c'est assez étonnant parce qu'on va entendre en France, au Canada ou aux États-Unis que, par exemple, on entend que mais l'égalité entre les sexes, il n'y a plus personne qui remet ça en question. C'est une valeur fondamentale maintenant de nos sociétés, de nos États, de nos institutions, de notre culture. L'égalité entre les sexes, entre les hommes et les femmes, tout le monde est d'accord avec ça maintenant aujourd'hui. Sauf peut-être quelques catholiques fondamentalistes et les islamistes et quelques... Bon, c'est un peu l'idée générale. Mais en fait, les sondages, ils sont étonnants. Et c'est exactement les mêmes résultats aux États-Unis, en France et au Québec. C'est 40% des hommes seulement qui se disent féministes. C'est même pas la majorité. C'est en fait relativement peu quand on y pense. Et je précise que c'est des sondages. C'est-à-dire que c'est facile de se dire pour la bonne cause dans un sondage. Mais non, il y a juste 40% des personnes qui le disent. Et ça ne nous dit pas du tout ce qu'ils font, pour revenir à la question du matérialisme, ça ne nous dit pas du tout ce qu'ils font dans leur pratique. Donc vous et moi, on peut bien dire qu'on est pour l'écologie. Là, si on nous appelle demain matin pour faire un sondage, on va dire qu'on est pour l'écologie. Ça ne dit rien sur est-ce qu'on fait du compostage, est-ce qu'on prend une voiture avec l'essence, est-ce que... Bon, donc c'est la même chose pour le féminisme. Moi, j'aurais bien aimé connaître le point de vue des femmes qui les côtoient, qui vivent avec eux, ces 40% des hommes.
Que...
Et peut-être qu'on tomberait plutôt à 10, 5% peut-être réellement. Mm. Donc en fait, aujourd'hui, quand on regarde concrètement et qu'on ne se fait pas berner par les reportages de type « tendance », des médias qui nous parlent des nouveaux hommes, qui nous parlent de...
Des nouveaux papas,
des nouveaux hommes. En fait, on reste encore à la remorque, là.
Vous, il se trouve que vous êtes un allié pro-féministe. Vous, à ce sondage, vous auriez répondu, oui, je suis féministe.
Oui, je réponds pas beaucoup au sondage, mais oui, sans doute, celui-là, j'aurais répondu, oui.
Et vous le précisez d'emblée, d'ailleurs, dans le livre, vous faites tout ce travail de réflexion critique sur votre propre pratique, sur votre propre réflexion. Par exemple, vous rappelez que toutes vos réflexions sur la question, elles doivent énormément aux travaux de toutes les féministes, qu'elles doivent aussi énormément à votre compagne, à d'autres camarades féministes autour de vous qui vous ont repris, qui ont fait cet effort-là, en fait, de vous éduquer.
Mmh.
Et vous expliquez aussi pourquoi vous êtes féministe. Est-ce que vous voulez bien raconter aux auditeurs, en particulier des couilles sur la table, pourquoi vous, en tant qu'homme, quinquagénaire, cis-hétéro, blanc, c'est-à-dire le usual suspect, l'objet de toutes nos colères. En général, c'est vraiment ce mec cis-hétéro de 50 ans qu'on cible tout le temps, les HSBC, comme on dit parfois.
Celui qui ne peut plus rien dire, d'ailleurs.
Celui qui ne peut plus rien dire, c'est ça. Bah, c'est vous, quoi.
Mais
et
oui,
pourtant, vous êtes féministe. Ouais. Alors.
Il me reste encore 3 ans. Après ça, je vais passer dans la soixantaine. Ça va être dans une autre catégorie.
Ça va.
Mais si je peux me permettre, juste avant de préciser quelque chose par rapport à l'apport des féministes, par rapport à la démarche, pour moi, c'est important, là, parce qu'il y a plusieurs livres qui sont sortis dans les dernières années, là, sur des sortes de guides, hein, pour l'égalité entre les sexes dans les couples, entre autres, et tout, là. Et c'est pas pour remettre en question leur pertinence, mais...
Bah, si, on peut, hein.
Il y a plusieurs guides qui sont sortis. Ils peuvent être un peu cyniques, mais ils sont aussi souvent candides et enthousiastes. Et surtout, je trouve qu'ils parlent très peu des féministes, finalement, ou du féminisme. Et pour moi, c'est important, dans tout le premier chapitre du livre, la première section du livre, c'est vraiment de dire... Ben, en fait, des hommes pro-féministes, il y en a eu depuis des centaines d'années.
Ouais.
Et donc, les féministes, elles ont réfléchi à la place des hommes dans leur mouvement, à la place des hommes alliés. Et donc, toute la première partie du livre, c'est de rappeler les réflexions des femmes. Donc, je le fais de façon un peu schématique. Hein. Je dis, il y a des femmes qui sont pour, et il y a des femmes qui sont pas nécessairement... Bon, il y a des femmes qui sont contre, là, mais il y a des féministes qui sont, en fait, qui appellent à la méfiance ou à la prudence.
Bien sûr.
Et donc, là, je rappelle les arguments là, de plusieurs femmes, de plusieurs féministes, Christine Delphi, Ewen Zen, anarchiste chinoise au début du XXe siècle, Mélissa Blais, sociologue, Judith Taylor, qui est sociologue aussi, bon... Sarah Ahmed, tout ça, qui disent bon, les camarades, ils sont bien sympas, mais il faut faire attention parce que ça amène plein de problèmes. On y reviendra, j'imagine. Mais la question était plus personnelle.
Ah oui, plutôt vous, comment vous pouvez dire tranquillement que bah, vous êtes féministe ? Parce que je pense en fait aux hommes qui nous écoutent là et qui peut-être n'ont jamais vraiment entendu d'hommes raconter ça.
Donc, je viens du Québec, donc de la banlieue de Montréal. Les banlieues en Amérique du Nord, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est un peu... la structure urbaine est un peu inversée. Donc, en fait, les banlieues de la ville de Montréal, c'est en fait des quartiers plutôt classe moyenne, moyenne aisée. Dans les années 70, où j'étais enfant et adolescent, c'était très homogène, le quartier où j'étais. C'était vraiment le cliché, là, les bungalows tous pareils, avec une entrée avec la voiture là, à 8 heures du matin, le père partait avec la voiture, il revenait
la
à 5 heures.
La mère faisait des gâteaux.
Oui, c'était exact.
La clôture blanche, le Labrador.
Avec le gazon, on se promenait en vélo, là, comme dans Stranger Things et tout bon. Et, mais il n'y avait pas de monde à l'envers. J'ai grandi dans cet environnement très totalement pacifié, calme, paisible, voire ennuyeux. Et ma famille, mes parents que j'adore, qui sont encore en vie d'ailleurs, qui sont encore ensemble, étaient formés un couple très... Oui, c'est des rôles tout à fait traditionnels. Ma mère, grosso modo, faisait absolument tout dans la maison, et mon père, absolument rien, en fait. Et donc, moi, j'étais un garçon et je faisais rien non plus. Je me laissais servir par ma mère. Et c'est un peu difficile de savoir exactement qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai comme pris une pente oblique. Mais si je fais rapidement ma psychanalyse, là, mais c'est entre nous. Hein. Mon père avait me donné un peu un regard différent, pas par rapport à la masculinité ou au modèle masculin ou au modèle paternel, mais parce que lui, en fait, était né à Paris dans les années 30. Il avait fait dans une famille juive, donc il y avait toute cette question de la Deuxième Guerre mondiale qui restait, qui était discutée dans la famille, même s'il n'aimait pas en parler, il n'en parlait pas, mais en tout cas, bref. Mais surtout dans les années 50, lui, il était venu au Québec parce qu'il avait refusé de faire la guerre d'Algérie, donc il était un insoumis, donc il avait fui la France. Il était au Canada, il n'avait d'ailleurs pas la possibilité de retourner en France pendant plusieurs années à cause de ça. Donc il était techniquement un insoumis. Et dans les repas de famille, les discussions de famille, quand on parlait de politiciens de l'armée ou de la police, mon père avait toujours des commentaires critiques. Donc, il était toujours dans une position plutôt anti-autoritaire, plutôt égalitariste. Et par ailleurs, j'écoutais en loupe, là, quand j'étais pré-ado, sur mon petit tourne-disque dans ma chambre pour m'endormir, un humoriste qui s'appelle Yvon Deschamps, qui est un humoriste québécois, qui dans les années, fin des années 60, début des années 70, faisait des sketchs d'humour, des monologues d'humour qui étaient... très, très, très engagé politiquement. Il parlait de la pauvreté, il parlait des syndicats, il parlait du racisme et il parlait des femmes et des mères qui font tout. Et il reprenait un slogan du mouvement féministe québécois à l'époque qui disait « Ma mère ne travaille pas parce qu'elle a trop d'ouvrages ». Donc ça voulait dire « Ma mère n'a pas d'emploi parce qu'elle a trop de travail à la maison ». Et il décrivait ça, la vie des femmes qui se faisait, et ça me faisait évidemment réfléchir, ça me décentrait de ma réalité de banlieue aisée, classe moyenne aisée. Donc, à partir du moment où j'ai pu avoir accès à des cours qui étaient sur des thématiques sociologie du racisme ou psychologie de la sexualité, je les ai pris. Et je raconte rapidement dans le livre qu'en fait, ma première action féministe, ça a été de revenir à la maison. Et pendant un repas que ma mère nous avait préparé, nous servait, j'ai commencé à engueuler ma mère en disant que c'était stupide de nous servir comme ça, de se faire avoir, qu'elle se faisait exploiter, que c'était... Et mon père ne disait absolument rien, il mangeait en silence. Et après le repas, je me suis levé, j'ai rien ramassé. J'étais super fier d'avoir fait cette action féministe, d'avoir brassé la cage dans ma maison, alors que c'était évidemment tout à fait ridicule et pathétique.
Merci. Pour cette histoire-là, c'est un exemple de ce qui peut poser problème quand les garçons ont une révélation féministe et que d'un coup, ils croient avoir tout compris. Et c'est souvent ce qu'on se raconte aussi entre féministes ou entre femmes. Ces dernières années, j'ai vraiment écouté beaucoup de témoignages, de retours d'auditrices et d'histoires un peu partout, qui disent en gros, soit les garçons disent « bah, y a aucun problème, je vois pas pourquoi vous battez, il y a déjà tout, etc. » Donc ça, c'est la rhétorique anti-féministe assez classique. Après, il y a ceux qui commencent à avoir un peu compris, et ceux qui font du zèle, et ceux qui veulent être vraiment des bons alliés et qui causent encore des problèmes, comme exactement dans l'histoire que vous venez de nous raconter, mais comme aussi plein d'autres hommes qui, par exemple, vont au choix jouer les poseurs, jouer les initiés, jouer les humanistes, ou jouer l'autoflagellation de type « Oh mon Dieu, c'est vraiment horrible, je suis un homme oppresseur, etc. » Donc vous détaillez tous ces exemples dans le livre. Et il y a un court sketch qui a circulé sur Instagram et TikTok, signé par l'humoriste belge Anthony Circus, qui incarne parfaitement ce que vous dénoncez. On écoute, on en parle ensuite.
Camille, non, t'es pas en retard. Non, t'inquiète, je disais mon Virginie Despentes, t'inquiète, vraiment. Bon, Despentes. Non, je pense pas. Féministe, comment ne pas l'être, en fait. Voilà, moi c'est simple, j'ai grandi avec deux femmes très fortes, ma mère et ma femme de ménage. Alors oui, c'était la même personne, c'est deux boulots, voilà, deux casquettes. Non, principalement, moi j'essaye d'aider comme je peux, tu vois, je fais des TikTok, j'écoute Aya Nakamura. Non mais en tout cas, merci de m'offrir ta présence alors que t'es en plein PMS. Pardon, excuse-moi, je te coupe. J'ai l'impression juste que tu confonds un petit peu féminisme intersectionnel et féminisme universel, voilà. C'est complexe. Non, c'est complexe, je sais.
Mais si tu parles mal aux filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton toi.
Tu sais ce que je déteste dans la vie, moi? Le patriarcat. Et ouais.
Ça, plutôt, pour vous, c'est un poseur, un initié, un humaniste ou un autoflagellateur?
Ben, si il y a vraiment des pentes, ça pourrait être... un poseur ou un initié, parce que le poseur, c'est le féministe de façade, donc, mais qui connaît pas tellement nécessairement la matière première, alors que l'initié,
Lui, il a lu,
et donc il peut vous expliquer. Souvent, il n'écoutera pas nécessairement les femmes et les féministes, parce qu'en fait, lui, il a lu la théorie, ou il a lu j'ai lu une étude aux États-Unis, vous me racontez quelque chose sur votre expérience, mais lui, il connaît mieux, parce qu'en fait, il a lu une étude sur ce qui s'est passé aux États-Unis, etc., etc., et il pourra vous faire aussi... la leçon, s'il pense que vous avez mal compris tel ou tel auteur.
Bon, là, on rigole, mais c'est vrai que tout ça, ça peut prendre beaucoup d'énergie, et puis causer plein de dégâts dans les mouvements féministes, et puis être pas vraiment utile. En fait, il suffit pas d'avoir des bonnes intentions pour être un bon allié. Vous racontez que la sociologue Mélissa Blais, donc, qui est aussi votre compagne, elle a étudié il y a 15 ans l'engagement d'hommes pro-féministes dans un groupe, elle a pu les observer. Qu'est-ce qu'elle y a vu?
Alors, c'était la coalition anti-masculiniste, qui était une coalition ad hoc, qui au départ avait été formée par des féministes en non-mixité, et puis qui finalement avait décidé de s'ouvrir à la mixité. Moi, je faisais partie de cette coalition. Il y a eu 3 éditions des congrès Parole d'Hommes, qui étaient organisés en Belgique et en Suisse et au Québec par 3 masculinistes, justement, des 3 pays. Et donc, c'était vraiment la crème du masculinisme vers les années 2006-2010. Et donc, dans la coalition antimasculiniste, on était peut-être 10-15% d'hommes, c'était des camarades, principalement ça venait du mouvement étudiant radical, extrême-gauche, communiste, anarchiste. Et donc, Mélissa Blais a fait une étude de cette expérience-là, en se fondant sur ses observations, et puis sur les notes des debriefings, quoi, des retours qui avaient été faits ensuite par les militants et militantes qui s'étaient divisés en groupe en non-mixité femmes et en non-mixité hommes. Les conclusions qu'elle en a tirées, c'est que les hommes qui étaient entrés dans le collectif, ils étaient bien intentionnés, ils étaient en principe formés politiquement, c'était souvent des militants d'expérience. Le collectif avait pris des décisions formelles, entre autres au niveau de la prise de parole publique, au niveau de la division du travail, des tâches, etc. Et malgré tout ça, le résultat final, c'était des déceptions et des frustrations. Et le constat du côté des féministes, c'est le constat qu'il y avait quand même eu des inégalités, des sortes de « patterns », des sortes d'habitudes qui étaient remontées à la surface sans qu'on s'en rende compte, et des effets pervers. Donc, un exemple, ça peut paraître anecdotique, hein, mais un des effets pervers, c'est qu'on avait fait un congrès off Donc, en fait, c'était une journée d'ateliers d'éducation populaire avec des conférences, des ateliers, des réunions de discussion, etc. Et nous, les hommes, on avait, de la coalition, on avait dit, bon, ben nous, on va faire de la logistique. Par exemple, on va faire la vaisselle. Et on n'animait aucun panel, on ne on participait pas aux discussions, etc. On n'avait pas présenté des thématiques, etc. Mais en fait, nous, on s'est fait féliciter et remercier par à peu près toutes les femmes qui étaient de passage cette journée-là parce qu'elles trouvaient ça tellement intéressant et gentil et cool qu'on fasse la vaisselle. En arrière, là, on n'était même pas devant les gens. Là, on était comme il fallait passer par un couloir pour aller nous remercier. Et elles faisaient la file presque pour nous remercier. Et donc, ça paraît anecdotique, mais c'est symptomatique de ce genre de position qui est paradoxale et souvent qui comporte quand même des effets pervers. Et donc, elle avait aussi constaté des problèmes au niveau de la prise de parole publique, même si on avait pris des décisions par rapport à qui était porte-parole, etc. Les hommes avaient réussi à souffler quand même et aller parler aux médias, entre autres, ou des choses comme ça, même si ça avait été dit explicitement que c'était pas ça qui devait être fait. Et puis, il y avait eu des enjeux de jeu de séduction qui étaient pas très constructifs, qui créaient des rivalités aussi entre femmes, ce qui était encore moins sympathique. Et puis, c'est qu'au fil de la mobilisation, donc dans les assemblées générales, dans les réunions de comités, dans etc., ben, il y avait eu des conflits entre les hommes et les femmes. Et donc, en fait, à la fin de la mobilisation, le constat, c'était en fait qu'il y avait eu beaucoup d'énergie et de temps perdu pendant la mobilisation qui avait été perdu à gérer le fait qu'il y avait des hommes dans la coalition et que s'il n'y avait pas eu des hommes, ben, en fait, ce temps et cette énergie n'auraient pas été perdus à gérer ces conflits. Et donc, en fait, la question au final que Mélissa se posait, c'est comment on arrive à évaluer si la présence des hommes nous a apporté plus d'énergie ou nous en a enlevé, en fait?
Oui, et quand bien même vous seriez comporté de façon quasi parfaite, en fait, de fait, parce qu'il y a des hommes dans un mouvement, ça fout le bordel d'une façon ou d'une autre.
Exact.
L'autre question, c'est est-ce qu'on a besoin des hommes pour faire avancer les causes féministes? Et donc, à la fois oui, à la fois non. Et comme vous le disiez, il y a des féministes qui pensent que oui, on a absolument besoin que les hommes s'engagent, se rallient, et d'autres pensent que plutôt non. Vous en pensez quoi?
Je pense qu'il y en a qui disent oui, puis il y en a qui disent non. Et donc, moi, j'essaie de me tenir avec celles qui disent oui, mais attention. Mais il y en a qui disent que c'est vraiment important. Ben, de toute façon, il y en a qui constatent qu'il y a des hommes qui sont là de toute façon. Mais il y en a qui sont plus optimistes encore. Là. Donc, je pense à des féministes comme aux États-Unis, il y avait Susan Faludi, afro-américaine Bell Hook, qui a écrit spécifiquement là-dessus. Il y en a en Inde, il y a en France, il y a Florence Moreno, Aline Laurent-Ménard, qui a écrit « Libérer de la masculinité » dernièrement, qui appelait les hommes à rejoindre le mouvement féministe, etc. Et donc, ils ont différents arguments pour dire pourquoi il faut des hommes alliés du féminisme. Donc, il y a ce que je viens de mentionner, c'est l'idée que, ben, en fait, plus on est, mieux c'est. Donc, nécessairement, un homme qui arrive, c'est une personne de plus. Donc, plus de force, plus d'énergie, plus de combativité. Plusieurs pensent que ça va donner une meilleure image au mouvement. Que le mouvement aura l'air moins exclusif, ça va briser l'image des féministes hystériques radicales qui détestent les hommes. Il y en a qui veulent, parce qu'elles aiment les hommes, et donc elles veulent militer avec les hommes, elles ne veulent pas militer en homosexualité, elles trouvent que c'est sympathique de militer avec les hommes. Et il y a une sorte de, ce que j'appellerais un argument de vente, mais qui peut être sincère, là, c'est qu'elles pensent que le féminisme, c'est bon aussi pour les hommes, donc que le féminisme, c'est une cause universelle et pas seulement une cause pour les femmes, que les hommes y gagnent au final. Il y a en fait un argument pragmatique qui dit en fait, les hommes peuvent être efficaces sur certains thèmes pour s'adresser aux autres hommes. Et des fois, un autre homme a plus de capacité à convaincre un autre homme que 10 femmes qui vont s'obstiner avec lui. J'évacue là les féministes qui sont vraiment séparatistes, parce qu'il y a des féministes qui disent simplement, genre, nous, on veut juste pas du tout s'allier aux hommes.
Et on les comprend.
Donc, je les exclue, puisque mon livre, c'est sur les hommes pro-féministes, donc c'est correct, là, mais c'est pas... Donc, moi, je suis allé voir plutôt...
Pardon de vous couper, mais par exemple, être un bon allié, c'est par exemple de ne pas aller voir les femmes qui veulent rien avoir à faire avec les hommes pour leur expliquer qu'elles ont tort, par exemple.
Ah non, mais je fais pas ça, là,
Non, mais pas vous, mais je le dis à l'intention des auditeurs.
Oui. Et je pense qu'il y a des féministes séparatistes qui sont en non-mixité, choisies ou pas choisies par ailleurs, mais au niveau du mode de fonctionnement, etc., mais qui peuvent se retrouver aussi dans des coalitions où là, ils se retrouvent avec des coalitions où il y a de la mixité ou dans des événements, ou dans des... Bref, donc... Et puis moi, ma compréhension aussi, c'est que le séparatisme reste réellement marginal d'une certaine manière, parce qu'en fait, la plupart des femmes, elles ont quand même des contacts avec des hommes dans leur vie, famille, amis, travail... etc. Mais c'est tout à fait compréhensible et légitime, je ne remets pas du tout ça en question. Mais donc, moi, je suis allé voir donc, des féministes comme l'Association révolutionnaire des femmes afghanes, par exemple, la RAWA, ou Christine Delphi, ou Ewin Zen, dont j'ai parlé tout à l'heure.
Qui est donc une anarchiste chinoise du début du XXe siècle. J'avais jamais entendu parler d'elle, c'était super de la lire dans votre...
Mélissa Blay, donc on a parlé tout à l'heure. Judith Taylor, qui a étudié les mobilisations pour le droit à l'avortement en Irlande. Sarah Ahmed aussi.
Mm-hmm. C'est donc une féministe australienne.
Oui, et d'autres. Un site web d'un groupe de femmes en Martinique, par exemple. J'ai rapporté ce que ces femmes disent, qui propose une perspective plus critique ou plus prudente par rapport aux hommes. Mais donc, toutes ces femmes, elles disent, on voit bien qu'il y a des alliés, on voit bien que les hommes veulent être là, on voit bien que... Mais voilà, sachons que ça vient avec tel type de problème potentiel.
Notamment le problème. Là, on a un peu rigolé au début avec tous ces problèmes des hommes qui prennent les femmes de haut, trouvent que c'est bien pratique d'être féministe parce que ça leur permet d'avoir un accès au corps de féministes.
Oui.
Mais aussi leur nuisent parce que ils jouent contre leur camp, par exemple. Ils sèment la zizanie.
Oui.
Et où ils ne font rien en fait de concret pour en revenir à la perspective matérialiste que vous aviez
oui.
au début. En fait, être un allié, ça commence par faire des choses très concrètes dans sa vie, quoi.
Exact. Donc, je vais prendre les deux postures. La posture de celui qui pense qu'il fait des trucs concrets. Ça, c'est... Je ne suis pas si vieux que ça, là, mais au 19e siècle, déjà, c'était un enjeu dans l'extrême-gauche, les mouvements anticapitalistes, les mouvements ouvriers, les mouvements syndicalistes révolutionnaires. Et on entend ça encore aujourd'hui. C'est les camarades qui disent, ben oui, moi, je suis contre l'inégalité entre les sexes et tout, c'est épouvantable, le patriarcat, ça me dégoûte, etc. Mais il faut quand même que tu comprennes que la priorité, c'est la lutte contre le patronat, ou c'est la lutte pour ceci, ou c'est la lutte pour cela. Et donc, toi, il faut que tu participes à notre mouvement de masse. Et quand on aura un mouvement de masse qui pourra lutter contre le capitalisme, ben là, éventuellement, on pourra s'occuper après du sexisme et de... Donc ça, c'est un double problème. Le premier problème, évidemment, c'est que ça reporte toujours à demain la lutte féministe comme réellement prioritaire. Ça enlève l'autonomie des femmes et ça les soumet à une logique qui les met en position secondaire. Mais aussi, dans la réalité, ce que ça fait, c'est que ça vient miner la capacité des femmes de lutter contre le sexisme à l'intérieur même des organisations d'extrême-gauche ou des organisations révolutionnaires, parce que là, on va leur dire qu'en fait, c'est des fouteuses de merde et c'est des emmerdeuses et qu'elles divisent le mouvement et qu'elles fragmentent et que c'est pas correct parce que le camarade là, il a pas fait exprès, il était un peu sous ce soir-là, mais dans le fond, c'est un camarade super important. Et donc, c'est ce qui fait que d'année en année, de génération en génération, de cohorte en cohorte, en fait, il y a des femmes qui rentrent dans les organisations révolutionnaires, ou des organisations anarchistes, ou des organisations communistes, ou des organisations syndicales révolutionnaires, etc., et puis qui partent parce qu'en fait, on leur dit qu'il y a plombe l'ambiance, elles disent que ce sont des emmerdeuses, alors qu'elles essayent de soulever des questions à l'intérieur même de ces organisations-là qui ne sont pas égalitaires. Après ça, il y a ceux qui font rien.
Okay.
Alors, ça, c'est les poseurs. C'est ceux qui peuvent répondre aux sondages en disant « oui, je suis pro-féministe », c'est ceux qui peuvent dire « oui, je suis évidemment pour l'égalité entre les sexes ». Mais quand ils voient des situations concrètes où eux devraient s'impliquer ou quand eux devraient faire des choses, ils ne font rien parce qu'en fait, ce sont des beaux parleurs, ce sont des féministes de façade, mais dans leur vie, que ce soit leur vie privée, personnelle, je sais qu'il ne faut pas distinguer privé et public, mais en fait, je fais de façon schématique là, donc dans leur vie plus intime, donc relation de couple, relation amicale, la vie familiale, ou dans la vie militante, organisationnelle, du travail, de syndicats, de partis politiques, etc., ben en fait, ils font pas grand-chose à part, des fois, prendre la parole au micro et dire que... ou devant les amis, en disant qu'évidemment, ils sont pour la cause féministe.
Sarah Ahmed, elle appelle ça faire des déclarations non performatives. Par exemple, de dire « Oui, je reconnais que le patriarcat, c'est un problème. D'ailleurs, moi aussi, en tant que mec cis-hétéro, je tiens à dire que j'ai beaucoup de privilèges. » Là, 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 là. Et en fait, ça sert à rien, ce genre de phrase.
C'est contre-performatif parce que l'homme qui dit ça devant des femmes, il semble leur montrer qu'il comprend la question des inégalités entre les sexes et que les hommes, en fait, sont un problème. Mais en disant ça, par le fait même de dire ça, en fait, il s'auto-décerne une médaille. Et en fait, ce qu'il dit, il ne dit pas « je suis un homme, je m'en excuse, je suis coupable d'être un homme et les hommes ne sont pas gentils ».
Ce qu'on ne leur demande pas de dire, d'ailleurs. Hein.
Ce que vous ne demandez pas de dire. Il dit, en fait, exactement l'inverse, mais... En sous-texte, il dit « Moi, je suis bon. Moi, je suis un bon gars. Moi, je suis gentil. Vous pouvez me faire confiance, etc. » Je suis déconstruit.
L'homme déconstruit. Ouais. Moi, je n'utilise jamais ces termes-là.
Non, mais je l'utilise ironiquement, là.
Oui, bien sûr. Mais c'est des termes qu'on entend beaucoup, en fait.
Je
sais. Voilà, qu'il y a une masculinité toxique.
J'utilise pas ça, moi non plus.
Moi non plus, parce que je trouve que ça ne sert à rien politiquement, en fait.
Je ne fais même pas de barbecue, donc...
Ce que j'adore dans votre livre aussi, c'est que on découvre donc l'histoire des hommes pro-féministes, et on découvre qu'à travers l'histoire et surtout à travers tous les continents, il existe des hommes pro-féministes qui s'engagent, qui montent des associations, qui prennent des risques personnels. Il y a plein d'exemples contemporains. J'en prends au hasard, hein, donc page 59, page 60. Une ONG fondée par Mathieu Laouesa, un Afghan de 30 ans, qui a fondé une organisation pour l'éducation des filles et des femmes à Kaboul.
Qui a été arrêté.
Il a été arrêté. En Égypte, il y a des hommes qui sont organisés au moment de la révolution Place Tahrir pour empêcher d'autres hommes de commettre des agressions sexuelles. On connaît le personnage de Denis Mukwege, qui a reçu le prix Nobel de la paix, qui est lui gynécologue et qui répare les mutilations génitales dont les femmes sont victimes au Congo. Enfin, il y en a en fait, des hommes. Et partout dans le monde, depuis fort longtemps. Mais comme le fait remarquer une consoeur, Joan Alhuysen dans Libération, retracer l'histoire mondiale des hommes féministes, ça prend pas beaucoup plus qu'une dizaine de pages. Il n'y en a pas non plus tant que ça, quoi.
Oui. Évidemment, j'aurais pu développer, mais en fait, c'était important pour moi, pour les hommes là, de la Place Tahrir, c'est une étude de Magda Boudreux, entre autres, là, qui a montré comment ils s'étaient mobilisés. Mais pour moi, c'était important de faire cette espèce de panorama très rapide. Je parle aussi de la communauté afro-américaine, celui qu'on considère comme un premier sociologue afro-américain, le diplômé en tout cas Du Bois, Frederick Douglass aussi, un ancien esclave, Black Men Against Sexism aussi, donc des groupes plus récents, pour sortir de l'idée que pour être un homme pro-féministe, il faut être de bonne famille, bien éduqué, blanc, et que c'est un truc de privilégié. Et qu'en fait, non, en fait, il y en a eu partout, il y en a eu dans tous les contextes, même en Afghanistan. Dans les années 80, quand la coalition États-Unis, France et tout ça appuie ce qu'on appelait les Mujahideen à l'époque, donc les combattants de la liberté contre le régime marxiste à Kaboul, qui était appuyé par l'armée rouge soviétique, c'était des marxistes. Donc en fait, ils étaient pour l'égalité entre les sexes, c'était dans la loi, les femmes afghanes, sous les marxistes afghans, ils pouvaient avoir accès à tous les métiers, ils étaient dans l'armée, etc. Ils étaient aussi pour l'égalité des terres, et les États-Unis et la France et tout ça, et Bernard-Henri Lévy compagnie, ils s'en foutaient complètement, parce qu'en fait, ils appuyaient les Mujahideen.
Contre l'URSS, parce que ce qui leur faisait peur, c'était l'hégémonie de l'URSS, du bloc soviétique,
exactement,
etc.
Exactement, c'était la guerre froide, et donc les femmes afghanes, elles pouvaient bien être sacrifiées à tout ça. Là. Donc ce que je voulais montrer, c'est qu'on peut être afro-américain, on peut être afghan, on peut être au Caire au 19e siècle, on peut être un homme pro-féministe, on n'a pas besoin d'un diplôme de sociologie de Paris 8, là.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon du Cœur sur la table et des couilles sur la table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter? Comment vivre avec? Et les agresseurs? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour, enfin, éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans le podcast Le Cœur sur la table. Est-ce que justement, c'est pas plus simple de devenir un homme pro-féministe quand on subit soi-même une oppression ? Parce que là, dans tous les exemples que vous avez donnés, donc il y a des hommes noirs américains qui comprennent très bien ce que c'est que le racisme, du coup, des hommes gays, des hommes de classe populaire, où en fait, il faut avoir subi une oppression, ou être en train de subir une oppression pour comprendre ce que c'est l'oppression sexiste, comprendre ce que c'est l'oppression misogyne.
Oui, c'est une bonne question, et c'est d'ailleurs évoqué, il y a une thèse qui dit exactement ça, avec une enquête sur des hommes afro-américains aux États-Unis aujourd'hui, des hommes contemporains, qui expliquent exactement ça, qui disent en fait... Nous, on a compris l'enjeu du sexisme de deux manières, en regardant ce qui arrive à nos mères et à nos sœurs, et en faisant l'analogie avec le racisme. Et d'ailleurs, dans les années 60-70, quand le mot sexisme est forgé aux États-Unis et en France, il est forgé explicitement, et c'est dit par les féministes qui commencent à utiliser le mot sexisme, il est forgé explicitement en analogie au mot racisme, sous une inspiration de mouvements des droits civiques, entre autres, là, des luttes des communautés afro-américaines aux États-Unis qui avaient mis la question du racisme vraiment dans la tête de tout le monde. Et les féministes radicales d'alors ont dit, ben nous, on va avoir le mot sexiste parce qu'on voit des analogies. C'est pas pareil, mais on voit des analogies.
Bon, après, c'est pas parce qu'on subit soi-même une oppression qu'on va comprendre ce qu'est le sexisme ou s'engager. Par exemple, bon, moi, mon frère, par exemple, m'a dit, mon petit frère m'a déjà dit, parce que lui, il vit à la campagne, il n'a pas il n'a pas fait d'études, il est pauvre, voilà. Et il va dire, mais qu'est-ce que tu viens me prendre la tête avec tes histoires de féminisme, tes espèces de parisiennes blanches, aisées, tu crois pas que c'est la merde pour moi, qu'est-ce que tu me racontes avec ton féminisme, par exemple. Bon, donc... Il ne comprend pas très bien où est le problème. Enfin, plutôt, il estime qu'en fait, les oppressions dont lui, il estime être victime, c'est plus grave que les oppressions sexistes, par exemple. Autre exemple, bah, vous le donnez aussi dans le livre, le fait que ce n'est pas, par exemple, parce qu'on est un homme gay et donc qu'on subit l'hétérosexisme, qu'on subit l'homophobie, qu'on va automatiquement être un allié des féministes.
Voilà. Et donc, la question de l'analogie que j'ai mentionnée, que vous avez mentionnée aussi, elle est explicative dans les cas où les hommes deviennent pro-féministes, et c'est eux-mêmes qui le disent, que ça a fonctionné comme un jeu d'analogie. Mais on revient à l'enjeu du début de la discussion, qui est en fait la majorité des hommes ne se disent pas féministes, ils ne se disent pas pro-féministes. Et ça, c'est quelle que soit la classe, et quelle que soit la classe, le groupe ou la catégorie, vous avez des hommes aussi qui sont anti-féministes. Donc vous en avez évidemment en Afghanistan, vous en avez dans la communauté afro-américaine, vous en avez, et je le mentionne, vous en avez dans la communauté gay, c'est pas quelque chose de nouveau d'ailleurs. Les lesbiennes se sont heurtées à ça dans la construction même des organisations militantes dans les années 70-80. Il y a eu des clashs très importants au niveau de qui contrôle les organisations, qui prend la parole, et c'est le mouvement homosexuel, c'est quelle homosexualité qu'on défend et qui a les ressources, qui a accès aux ressources, même les ressources commerciales et financières dans les communautés. Je parle des trans aussi, des hommes trans. Les enquêtes sur les hommes trans aux États-Unis montrent qu'il y a des hommes trans pro-féministes, mais il y en a qui sont aussi masculinistes et antiféministes. Pour revenir à la question de la classe, c'est évidemment pas parce qu'on est pauvre qu'on est machiste et antiféministe, et c'est pas parce qu'on est bourgeois qu'on est pro-féministe et antisexiste, évidemment. Et je reviens à mon extrême gauche de tout à l'heure, au 19e siècle, par exemple, au début du 20e, dans le mouvement anarchiste, entre autres, ben, le mouvement anarchiste, là, les militants du mouvement anarchiste qui étaient pour l'égalité entre les sexes, elles pouvaient critiquer les féministes parce qu'elles disaient que c'est un mouvement bourgeois, mais en réalité, elles étaient Emma Goldman et Louise Michel et tout ça, c'était des féministes. Elles écrivaient là-dessus, elles luttaient là-dessus. C'était pas des bourgeoises, là.
Bien sûr. Dans tous les hommes qui se disent féministes, il y en a, depuis les années 60, qui décident d'attraper le problème à bras-le-corps, de se réunir entre eux, pour traiter les problèmes de masculinité, les problèmes de sexisme intériorisé, et pour voir comment, ensemble, ils peuvent prendre conscience de ce qu'ils peuvent faire. Ça part d'une bonne intention, c'est-à-dire que comme les femmes se réunissent entre elles en non-mixité, ou les personnes dominées, les personnes racisées, les ouvriers se retrouvent dans un syndicat, bah voilà, les hommes vont se retrouver entre eux et discuter de leurs problèmes pour essayer de trouver des solutions. Il y en a un qui existe encore, des groupes comme ça, en France aussi. Moi, au tout début de mes prises de conscience féministe, j'étais plutôt pour cette solution. Je trouvais que c'était bien, quoi, qu'ils parlent entre eux, qu'ils apprennent à pleurer, qu'ils apprennent à exprimer leurs émotions, tout ça, que, en fait, ce ne soit pas les féministes qui s'occupent de leurs problèmes, quoi. Les mecs s'occupent de leurs problèmes entre eux. Bon. Et en fait, vous montrez que ce qui se passe dans ce genre de cas, c'est que très souvent, les hommes entre eux finissent par se convaincre qu'ils sont victimes, en réalité, des femmes. Et même, vous montrez que beaucoup de groupes qui s'étaient fondés sur cette bonne intention, ça devient ensuite des groupes antiféministes et masculinistes. C'est fou, quand même.
Oui,
Bah ouais. Donc plutôt, on doit conseiller aux auditeurs de plutôt pas faire ça. Plutôt n'allez pas vous retrouver avec d'autres hommes pour discuter de vos problèmes d'hommes et tout. Ou alors, avec certaines conditions, dans un certain cadre.
Oui, c'est ça. Et en fait, il ne faut pas être candide et naïf. Ce qui a été initié, ce n'est pas nécessairement les hommes du départ, mais en tout cas, ça a donné l'espace à des dérives et même à des renversements de logique. Et donc, les premiers groupes de parole dans les années 70, ils ont créé ce que dans les années 70, on appelait le mouvement des hommes. Et en quelques années, en fait, ce mouvement des hommes, ben, il était plutôt contrôlé par des masculinistes, des antiféministes qui étaient plus du tout dans une perspective antisexiste et qui étaient plutôt genre, j'ai été dominé par ma mère, j'ai été dominé par ma conjointe et maintenant je suis dominé par mon ex-conjointe. Et je m'ennuie de mon père et tout ça. Donc bref, c'était pas...
Oui, mon père me manque et en fait, exact. En réalité, j'ai pas assez connu mon père. Je souffre dans mon masculin. Après, ça bascule dans les histoires de masculin sacré
oui, c'est ça,
et tout.
Exact.
Bon, ça, je vous renvoie à la première conversation qu'on avait eue, vous et moi, dans un autre épisode des couilles sur la table. Mais depuis, moi, j'ai rencontré des mecs qui faisaient partie de ce genre de groupe, mais alors des mecs super militants.
Oui.
Bon, je suis pas hyper convaincue par la solution non plus qu'ils avaient trouvée, parce qu'en fait, c'était des types dans des organisations super engagées et tout. Et donc, bien sûr, il y avait eu des problèmes avec les femmes du groupe, où en fait, elles estimaient qu'ils n'étaient pas assez avancés sur la question du sexisme. Donc, et eux, ils s'étaient aussi portés volontaires pour réfléchir à ça, quoi, à leur masculinité et tout. Donc, elle leur avait dit, bah, d'accord, vous allez vous retrouver entre vous, discuter des problèmes que vous avez, mais par contre, vous allez tout enregistrer. Ensuite, vous allez retranscrire à l'écrit tout ce que vous avez dit. Et genre, tout ce que vous avez dit, on va le lire, nous, les femmes féministes, et vous faire des remarques, en fait, pour vous éviter de basculer dans un truc super masculin. Bon, déjà, c'était fastidieux, mais aussi, ça donne un truc de surveillance qui n'était pas très sain, en fait, je crois.
Moi, j'ai croisé des hommes aussi qui étaient dans un groupe de ce type-là, où il y avait une reddition de compte avec surveillance avec des femmes.
Ouais, reddition de compte, en fait, c'est ça.
Et il y a des de Cabal, par exemple, à Paris, qui avait organisé des discussions avec des jeunes hommes qui étaient en grande partie racisés, d'ailleurs, où là, c'était vraiment, on se concentrait sur la question du consentement.
C'est ça. Bah d'ailleurs, Edith Cabal, on l'a reçue hein, dans l'émission, dans le quatrième épisode.
Ouais. Et donc là, on ne part pas dans tous les sens, et puis on y va sur des trucs plus précis, qui peuvent être plus constructifs aussi. Et puis après ça, il y a l'autre solution, qui est des groupes militants d'hommes pro-féministes, qui ne sont pas des groupes de parole.
OK.
C'est des groupes militants. Donc en fait, moi, j'ai mon groupe militant d'hommes pro-féministes. Je suis en alliance et en lien avec des groupes féministes. Et quand les groupes féministes organisent quelque chose et ont besoin d'aide logistique, ben, le groupe militant pro-féministe, il est là pour whatever.
Genre quoi? Garder les enfants?
Ça peut être garder les enfants, faire la vaisselle et se faire féliciter. transporter des choses, lever de l'argent, faire de l'affichage, j'en sais rien, mais il est dans la pile logistique. Mais ce groupe-là, il ne se rencontre pas pour parler de son père, sa copine, son ex-copine, sa sexualité, son nanana. Ce n'est pas un groupe de parole, ce n'est pas un groupe de lecture non plus, c'est un groupe militant de type, on est actif en termes organisationnels, mais on répond à des demandes.
D'accord. Donc, en fait, vous êtes mobilisable, quoi.
Exact.
Les assos féministes peuvent vous appeler pour ce qu'elles veulent.
Exact.
Trop bien. OK.
Donc, ça évite la dérive dont vous venez de parler. Et puis, après ça, il y a aussi ce que vous avez mentionné, qui est les cercles de lecture. Donc là, c'est des hommes qui se mettent ensemble et qui disent, ben, on va ce que vous avez mentionné un peu, qui avait été une demande, j'ai bien compris dans l'exemple que vous donnez, de féministes qui disaient, ben, nous, on ne va pas passer nos soirées à vous éduquer.
C'est ça.
Donc là, il y a une bibliothèque, là. Donc là, vous arrêtez de nous poser des questions, puis vous vous asseyez, puis vous lisez. Puis si vous voulez vous mettre ensemble, vous discutez ensemble.
Oui, ou vous écoutez des podcasts. C'était aussi à ça que ça servait, les podcasts,
oui,
d'ailleurs.
Ouais, hein. Là, je vois votre intérêt, mais je comprends que vous êtes là.
Oui, oui. Voilà, vous lisez ensemble, vous lisez les théories féministes et tout. Mais d'ailleurs, c'est un des conseils aussi que moi, je donne souvent, comme chose que les hommes peuvent faire concrètement. Je leur dis, bah, est-ce que vous lisez des femmes? Est-ce que vous écoutez des femmes? Est-ce que...
Mais en plus, aujourd'hui, il y en a tellement...
Bah oui, c'est vraiment facile,
comme
quoi.
Vous avez dit, podcast, des vidéos...
Des comptes Insta, des comptes YouTube...
Si la personne n'est pas une lectrice, ou la lecture, c'est quelque chose de plus difficile, où on n'a pas le temps, ou 300 livres, 300 pages, c'est...
Pour beaucoup de gens, c'est difficile.
Ben
hein,
oui, ben évidemment. Il y a une question du temps, il y a une question d'intérêt, etc. Mais là, il y a tellement de formats et tout en 2023 que si on veut s'éduquer sur le féminisme, c'est pas ça qui manque là.
Donc, c'est ce que vous dites dans votre petit guide de désempowerment, qu'on peut donc retrouver dans ce livre « Les hommes et le féminisme », c'est « Ne demandons pas aux féministes de nous éduquer, éduquons-nous nous-mêmes ». Ça, c'est une chose de base, en fait, que peuvent faire tous les hommes pour s'éduquer sur la question. Et vous listez, encore une fois, plein de choses à faire dans sa vie publique, dans sa vie privée. Il y a quand même deux, trois trucs où je me dis, bon, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Par exemple, quand vous dites, bon, c'est important en tant qu'homme de surveiller aussi ce que font les autres hommes et donc de casser la solidarité masculine. Je recevais, il n'y a pas très longtemps, un travailleur social que je tiens pour un grand allié de la cause féministe, qui s'appelle Didier Valentin, docteur Capote. Lui, ça fait 30 ans qu'il intervient dans les lycées, dans les collèges. Il fait, lui, sa façon d'être un allié aussi, c'est de faire de la prévention et de faire de l'éducation à l'égalité, au consentement, de faire de la réduction des risques pour, sur la sexualité, sur le porno, de faire beaucoup réfléchir notamment les jeunes hommes. Et il disait, mais en fait, ça, c'est inapplicable, quoi. Pour les jeunes hommes, c'est pas possible de dire... pour eux, c'est comme de leur dire, bah, tu vas balancer tes potes.
Exact.
Et ça, c'est... Ils disent, c'est impossible. Ça marche pas pour les jeunes, par exemple.
Bah, pour les vieux non plus.
Ouais. Bon, en fait, c'est hyper dur. Ouais, bien sûr.
Mais non, mais ça, c'est le coup... c'est le coup... je dirais pas le coup ultime, mais pour les hommes pro-féministes, moi, je pense, ce qui est le plus dur, c'est pas de faire la vaisselle, là. Ce qui est un coup, hein. Moi, je pense que... Je le répète souvent, là, les... Le partage des tâches domestiques, on pense que c'est un principe, on pense que c'est une question d'éthique. Ben non, c'est du temps et d'énergie, donc en fait, c'est chiant faire la vaisselle, quoi.
C'est du temps libre qu'on sacrifie, quoi.
Que t'as pas pour faire d'autres choses, passer l'aspirateur, ouais. Passer la bedrouille, tout ça, c'est du temps, c'est de l'énergie, du vrai temps. C'est pour ça que moi, je dis souvent, avec le féminisme, en fait, les hommes vont perdre des choses, ils vont perdre entre autres du temps libre. Mais rompre le boys club, c'est là qui est le plus... parce qu'on rentre dans la logique même du système patriarcal. Et c'est ça qui a le plus de coûts, c'est-à-dire, est-ce que moi, je suis prêt à dire à tel homme, ou à tel groupe d'hommes d'ailleurs, que telle situation est inacceptable, que ça ne marche pas, et donc je me confronte à vous, ou je romps les liens. Et en rompant les liens, généralement, je perds aussi, puisque je perds des liens militants, des liens de travail, des liens d'amitié, des liens de camaraderie, des liens... Et puis, je dis par ailleurs qu'il y a un risque d'effet pervers à ça. C'est une sorte de combat de coq entre les pro-féministes, qui est le meilleur pro-féministe, etc., et qui est le plus pur et le plus... dans mon guide de disempowerment, il y a un truc où je mets tout le temps comme les effets pervers possibles.
Ouais, ça, c'est hyper intéressant, ce truc-là. Par exemple, de dire, un des effets pervers que vous notez, que j'aime bien, c'est de dire... on peut s'intéresser aux femmes pro-féministes, entretenir des liens amicaux avec elles. Et forcément, ça peut aussi créer des relations affectives, d'attirance, amoureuses, etc. Bah, l'effet pervers de ça, c'est qu'il faut veiller à ce que, par exemple, son propre pro-féminisme ne serve pas à juste faciliter l'accès au cœur et au corps des femmes.
Exact. Une sorte de prime sexuelle ou de séduction, oui.
Et là, moi, je vous lis et je me dis, bon, mais est-ce qu'on peut tout politiser à ce point-là? Je me suis posé la question, par exemple, dans ma vie, pour des hommes qui sont pro-féministes et qui accumulent les conquêtes, par exemple, tout le temps. Donc, ils font une sorte de donjuanisme, quoi. Voilà. Mais bon, eux, ils font ça au nom de la liberté. Ils ont le droit, en fait. Franchement, ils enfreignent aucune loi, aucune règle, rien du tout. Mais le truc répétitif, en fait, de séduire des femmes féministes encore, 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 et puis avec toujours le même schéma, en faisant en fait pas mal de dégâts, en réalité, me pose question. Voilà. Et je me dis, tiens, mais peut-être qu'en fait, c'est pas des si bons alliés de faire ça. Ça va loin, en fait, si on veut réfléchir à être un bon allié, que c'est pas un état, c'est vraiment un processus, c'est une façon de réfléchir, oui. Quoi. Est-ce qu'on est utile ou pas au mouvement et aux femmes autour de soi?
Il y a d'autres scénarios. Il y a, je vais appeler ça l'amour libre, disons. C'est un gain pour les femmes, c'est un gain pour les hommes. Là, ça paraît lointain, là, mais jusque dans les années 60 et début des années 70, c'était beaucoup plus coercitif, institutionnel. La question du mariage, tout ça, c'était plus... Mais effectivement, il y a eu ce qu'on appelle une libération des mœurs. Et donc ça, d'une certaine manière, tout le monde y gagne. Mais là, comme l'exemple que vous venez de donner, ben, c'est pas clair que tout le monde y gagne tout le temps non plus. On remarque que les hommes pro-féministes aiment beaucoup défendre le droit à l'avortement. Mais je pense qu'il y a des hommes pro-féministes qui tirent avantage à ce que les femmes aient le droit à l'avortement. Je pense même qu'il y a des hommes pro-féministes qui peuvent faire pression sur des partenaires sexuels qui sont enceintes, parce qu'en fait, ils ne veulent pas qu'il y ait un enfant qui naisse. Bref, il y a des causes comme ça qui, en réalité, avantagent aussi les hommes. Que ce soit dans la vie, ce que j'appelle la vie privée ou la vie publique, il y a une sorte de pattern. On apprend grâce aux féministes. Souvent, on fait l'erreur de penser que dès qu'on a appris quelque chose ou dès qu'on a une idée, c'est génial et donc il faut faire le travail de mieux lire, mieux écouter, mieux comprendre. Mais à l'inverse, des fois, c'est l'inverse, on est très lent. Et donc ça, il y a quelque, c'est quelque chose que j'ai remarqué même chez moi, c'est que quand des femmes ou des féministes vont affronter ou contredire ou challenger, si je peux dire, un homme, souvent l'homme, il va entendre, parce qu'on n'est pas sourd, donc on va entendre, mais ça ne veut pas dire qu'on comprend. Après ça, on comprend, mais ça ne veut pas dire qu'on accepte. Et après ça, on accepte, mais ça ne veut pas dire qu'on agit. Et après ça, on agit des fois. Mais que ça, sur des choses aussi simples que des tâches domestiques, par exemple, ça peut être à recommencer à chaque jour. Parce que c'est pas dire que c'est parce qu'on a compris, qu'on a accepté et qu'on a fait une journée que le lendemain, on va, ça ne sera pas à recommencer. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans, le, dans l'analyse de la position de, des alliés ou des complices. C'est la même chose avec la lutte contre le racisme et avec d'autres types de luttes. C'est qu'en fait, moi, je pense que c'est une lutte qui est avant tout, évidemment, par et pour les femmes. Et que nous, donc, c'est pas existentiel, si je peux dire ça comme ça. Les enjeux eux-mêmes sont fondamentaux, mais pour nous, c'est pas existentiel. Et qu'en fait, on a toujours la possibilité de se retirer ou de s'éloigner ou de se distancier de cette lutte-là.
Alors que pour les femmes, il n'y a pas le choix. Ben, les féministes,
on
n'a pas le choix.
Vous êtes pris dedans.
Oui, c'est vrai. Mais ce qui explique aussi, d'ailleurs, qu'on s'y mette avec une telle passion. Pour moi, c'était vital de lire énormément de théories féministes, de comprendre. J'arrête pas cette curiosité-là.
Des panthèses
De lire des panthèses. Ouais. D'ailleurs, à propos, est-ce que vous avez une œuvre d'art à recommander aux auditrices, pour terminer?
Ah, oui. J'ai sorti un tout petit livre, là, récemment, qui s'appelle Althusser Assassin.
Ouais, donc Louis Althusser,
donc là, on va pas partir.
Non, je vais pas partir dessus, non. Mais bon, c'est un philosophe qui était assez connu pour nos aînés. Moins ici en France, voilà, compagnon de Sartre, marxiste, enfin en compagnon, cas, pardon, compagnon
il,
de route.
Il était marxiste, il était intellectuel du Parti communiste à l'École normale supérieure à Paris, et il a formé, entre autres, il avait comme étudiant des célébrités comme Bernard-Henri Lévy, que vous n'avez pas encore reçu d'ailleurs au coup sur la table, ou aussi Jacques Rancière, Étienne Balibar, bref. Et donc, Louis...
Donc c'est une certaine gauche, quoi, oui. Qui après, ils ont tous pris des directions différentes, mais bon,
ça a été, ils ont été ses étudiants. Et donc, Louis Althusser, à l'École normale supérieure, il avait un appartement de fonction avec sa conjointe Hélène, Légossien, et donc, en novembre 80, il l'a étranglée, et elle est morte. Et donc, j'ai fait un tout petit livre là-dessus, et en fait, je fais une analyse des discours de Louis Althusser, parce qu'il a écrit son autobiographie après, et les médias ont beaucoup parlé de ça, les médias ont parlé de son autobiographie, Bernard-Henri Lévy, évidemment, en a parlé, et tout ça, et donc je montre en fait comment une certaine intelligentsia française s'est liguée pour protéger la réputation d'Althusser et l'excuser par la folie, et continuer à dire qu'en fait, c'est un génie, et que même son autobiographie, qui est en fait une...
C'est 300... Les extraits que vous mettez dans le livre, c'est vraiment consternant.
Non, mais c'est,
hein.
c'est vraiment, hallucinant, là. C'est hallucinant.
Et donc... Parce qu'en gros, il explique, pardon, les extraits que vous mettez, bah voilà, il explique qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé, que c'était une sorte de folie. Mais enfin bon, il explique aussi qu'en fait, il était super jaloux, qu'il n'arrêtait pas de faire des scènes à sa femme, que l'ambiance était insupportable. Enfin, vraiment, il raconte tout ça, quoi.
Et qu'elle voulait le quitter.
Et qu'elle voulait le quitter.
Ouais. Donc c'est ça, le petit livre, c'est l'analyse de ce discours de lui et de tout le bien qu'en ont dit plein de personnes en France. Bref, et donc, en faisant la recherche pour celui-là, ça m'a permis de découvrir l'œuvre de Camille Garbi, qui est une artiste visuelle, photo, et qui avait fait une exposition lors d'un colloque à Paris en 2021 sur les féminicides. Mmh. Donc elle a fait une exposition de photos qui peut être consultée sur le web, qui s'appelle « Preuve d'amour », preuve au pluriel. Et donc, je vous laisse voir cela. C'est assez étonnant, disons. C'est sur la thématique des féminicides.
Merci beaucoup pour cette recommandation et merci pour votre temps, Francis Dupuy-Déry.
C'est moi qui vous remercie.
Merci à Francis Dupuy-Déry. Je vous conseille vivement la lecture de son livre à la belle couverture violet vif, Les hommes et le féminisme, faux amis, poseurs ou alliés, c'est aux éditions textuelles. Sur toutes les plateformes, vous trouverez le précédent épisode qu'on avait enregistré ensemble dans le podcast Les couilles sur la table, podcast qui est rendu possible grâce au travail de toute une équipe. Merci à Anne Vaudoyer, l'attachée de presse du livre de Francis Dupuy-Déry. Et chez Binge Audio, merci à Naomi Titi, qui se charge de la production, de l'édition et maintenant du montage, à Paul Berthiaud pour la prise de son et la réalisation, à Lise Niederkorn et Jeanne Longhini pour la com et le marketing. Et pour nous contacter, l'adresse, ça reste toujours lescouillessurlatable@binge.audio ou bien les boîtes sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup, chères auditeurices, pour votre écoute. Soyez de bons alliés et à bientôt. Salut, c'est Victoire Tuaillon, du cœur sur la table et des couilles sur la table. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie quand elles étaient ados. À l'époque, elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire personnelle, Caroline Potier, qui est devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment mieux écouter les survivantes et les survivants d'inceste? Comment la police et la justice pourraient enfin mieux les traiter? Comment vivre avec? Et les agresseurs? Qu'est-ce qu'on en fait des agresseurs? Ce documentaire est beau, est intelligent, est bouleversant, et je pèse mes mots, il est d'utilité publique. Car en France, vous le savez sans doute, une personne sur 10 est victime d'inceste. Ça veut dire que nous sommes tous concernés dans notre métier ou dans nos relations personnelles. Dans cette série, vous apprendrez donc ce que nous pourrions tous et toutes faire si on veut un jour, enfin, éradiquer l'inceste. Alors pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 000 lieues sous ma chair » dans le podcast « Le cœur sur la table ».
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.